Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Pour ce 15e épisode, j'ai pris le train jusqu'à Auxerre pour rencontrer Julie. Julie est la maman de deux enfants, un garçon et une fille. Après deux grossesses parfaites, l'instinct maternel va amener Julie à faire examiner sa fille car son regard semblait ailleurs. L'instinct maternel ne se trompe jamais, Carmela, sa fille âgée de quelques mois, est non-voyante. Dans cet épisode, Julie raconte la découverte du handicap de sa fille, le cocon que s'est formé sa famille pour se protéger du regard des autres et l'éducation de sa fille aussi spontanée qu'optimiste. Bonne écoute! Bonjour Julie, merci beaucoup d'avoir accepté de raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Merci, bonjour.
Alors tu as deux enfants, un garçon Lorenzo et une fille Carmela. Quel âge il a ton fils ?
Donc Lorenzo il a 10 ans et demi et Carmela elle a eu 4 ans.
Et alors comment est venue l'envie d'avoir ce premier enfant ?
Bah j'avais 20 ans, ça faisait déjà 3 ans que j'étais avec mon mari et je suis quelqu'un qui aime beaucoup les enfants. Je me suis toujours dit en fait je veux un enfant tôt. Enfin si bien sûr ma situation me le permet. Mais j'ai envie de te dire, on n'a jamais une bonne situation de toute façon. Donc voilà, on a fait Lorenzo, tout simplement.
Et alors, comment s'est passée cette première grossesse ?
Très bien, absolument pas malade. Je l'ai très bien vécue. J'étais à fond, comme d'habitude. Voilà, non, très très bien, très bonne grossesse.
Et tu t'es tout de suite sentie à l'aise dans ton rôle de maman après l'accouchement ?
Oui, ça a été. Bon, j'ai eu un accouchement très difficile, j'ai une césarienne un peu compliquée. Mais oui, j'ai allaité directement, j'avais déjà l'envie alors que j'avais 20 ans. Très très bien, très fusionnelle avec mon fils, tout allait bien.
Quelques années plus tard, l'envie d'avoir un deuxième enfant est là ?
Oui, bah, au bout de 3-4 ans, on avait l'envie d'avoir un enfant. Mais voilà, les complications ont commencé à arriver, donc...
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, en fait, donc, j'ai fait une grossesse extra-utérine dans un premier temps. Donc, je me suis fait opérer, on m'a enlevé une trompe. Et par la suite, j'ai eu de l'endométriose, quelque chose qui n'est pas forcément connu. Donc, quand je suis arrivée aux urgences, j'avais juste une douleur dans le ventre pour eux. C'était un peu compliqué. Hein. Donc, ils ont fini par m'opérer. Donc, du coup, une première fois. Et 7 mois après, j'ai été re-opérée de l'endométriose. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ma gynéco m'a dit, écoutez, voilà, vous n'aurez pas d'autres enfants, ça va être très compliqué, une trompe en moins, de l'endométriose, déjà une césarienne en urgence, enfin voilà, mon ventre avait été déjà pas mal charcuté. Hein. Donc elle m'avait dit, voilà, je préfère être franche avec vous, mais un deuxième enfant, ça va être très compliqué.
Et du coup, comment tu le vis, toi, ça ?
Très mal. Très, très mal. Après, on se fait à l'idée de se dire, bon, bah voilà, bah, on n'aura pas de deuxième enfant. J'avais déjà Lorenzo qui était pleinement qui était là et j'avais déjà mon bonheur, mais j'étais très malheureuse parce que bah moi j'ai toujours voulu un deuxième enfant, bon une petite fille encore plus, mais voilà. Mais non, c'était très difficile pour moi cette situation.
Et finalement tu tombes enceinte ?
Et finalement je me sentais pas bien et la pharmacienne, je lui ai écouté, ça va pas forcément, etc. Puis j'avais perdu beaucoup de poids avant d'être enceinte. Elle m'a dit bah attendez, mais faites un test. J'ai dit mais ça sert à rien, c'est impossible, c'est pas possible, je suis enceinte. Et en fait, si. Quand j'ai vu le test, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Mon Dieu. Voilà. J'étais très contente, mais j'avais peur parce que je me disais, oh, non, mais c'est, imagine, le bébé, il a un problème. Lorenzo, il avait déjà 5 ans. Mmh. Quand je l'ai appris, 5 ans, 5 ans et demi. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, entre-temps, bah, j'allais ouvrir ma boutique en plus. Voilà. Donc, c'était très compliqué. Hein. Je l'ai appris tout en sachant que j'allais prendre une boutique un mois après. J'étais en pleine formation pour ouvrir une boutique avec ma sœur. Donc, comment on va faire, le chamboulement, c'était pas prévu, enfin rien n'était prévu en fait. Et en fait, on a foncé quoi. Voilà, voilà, c'est ça.
Et c'était combien de temps, du coup, après que ta gynéco te dise que tu pourrais pas avoir
un enfant ? Ah bah, au moins un an ou deux ans après, hein, au moins. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai arrêté la pilule. Et en fait, en un mois, j'étais enceinte. On est très fertile dans la famille.
Et alors, comment s'est passée cette deuxième grossesse ?
Très bien, pareil, comme d'habitude. Moi, j'ai de la chance d'avoir eu des grossesses formidables, pas malades, très bien. Bon, j'étais très fatiguée parce que du coup, on avait ouvert la boutique avec ma sœur. Donc, c'était un travail... je ressentais que j'étais de plus en plus fatiguée de toute façon. Mais c'est vrai que j'ai été jusqu'au bout et j'ai arrêté de travailler à peine 10 jours avant d'accoucher. Mais sinon, ça s'est très bien passé. J'ai re-eu une césarienne en urgence, encore une fois. Donc, mon col ne s'ouvrait pas. Donc, pareil, encore des souffrances... Mais le bonheur. Ma fille était là. Voilà. C'était parfait.
Et donc, Carmela, donc, ta petite fille, elle est non-voyante. À quel âge et comment tu t'en es rendu compte ?
Eh bien, écoute, déjà, c'était pas tout de suite. Carmela, à peu près vers ses 2 mois, on a commencé à se dire, bah, c'est bizarre, elle nous regarde pas forcément. Elle a le regard un peu évasif. Mais voilà, on s'est pas forcément alarmé là-dessus. Hein. Et c'est vrai que moi, ce que je disais à mon mari, j'écoute, c'est quand même bizarre. Lorenzo, c'était pas comme ça. Les mecs, hein, comme d'habitude, arrête, ça va aller, tout ça. Bon, donc j'ai quand même pris la décision d'aller voir un orthophoniste pour voir au niveau des yeux. Donc, il a regardé, il dit, écoutez, effectivement, votre fille a peut-être un problème, peut-être. Il faudra peut-être des lunettes. Donc, écoutez, vous allez lui prendre des lunettes. J'ai dit, ah bon, à 2 mois, oui, ça peut-être lui, au niveau des yeux, ça va faire la correction. Donc, elle avait, c'est vrai, un petit strabisme. Mais bon, mais si vous voyez que c'est alarmant pour vous, n'hésitez pas à consulter plus haut. Bon, donc du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de voir. J'ai appelé Necker. J'ai dit, écoutez, voilà, je suis un petit peu inquiète. Oh, vous inquiétez pas et tout. J'ai dit, écoutez, voilà, je préfère prendre un rendez-vous. Donc, pour ces 3 mois, on a eu un rendez-vous. Donc, on est parti à Necker. Et de là, ils nous ont dit, oh là là, c'est rien, elle doit avoir un petit strabisme, rien d'alarmant. De toute façon, les enfants, ils ont jusqu'à 6 mois pour se débloquer au niveau du regard, parce qu'il y a des enfants, des fois, qui mettent beaucoup de temps au niveau du regard. Donc, pas d'inquiétude. Bon, pas d'inquiétude, mais bon, le temps passait. Je me disais, il y a un problème, je le sens pas. Je sais pas pourquoi, nous, les mamans, de toute façon, on a un sixième sens. Hein. Je ressentais qu'il y avait un problème, puis mon mari, tout le temps, me disait, arrête, bon, ok. Bah, le 6 mois est arrivé. Et puis, bah, Carmela, ses yeux n'ont pas changé. Ça partait toujours. Donc, de là, on a commencé un petit peu à se fâcher avec Necker. On a dit, écoutez, voilà, là, par contre, va falloir faire quelque chose parce que ça commence à être un petit peu dur. Puis, la petite, elle grandit. Donc, de là, bah, l'horreur a commencé. Les examens à répétition. Donc, elle a effectué beaucoup d'examens, des fonds de l'œil, etc. Et elle a fait un très gros examen qui s'appelle un ERG. Donc, en fait, qui consiste à envoyer des flashs dans les yeux aux enfants. C'est quelque chose, je ne vais pas mentir, j'ai attendu dans le couloir. Hein, c'est mon mari qui a été avec elle, parce que c'est très douloureux. Hein. Ils ne l'ont pas endormie. Et en fait, de là, écoutez, on vous tient au courant en fonction des résultats. Donc le temps passe, pas de nouvelles. Donc je décide de prendre les choses en main et d'appeler directement l'hôpital de la Fondation de Rothschild, donc à Paris. Donc j'explique un petit peu ce qui se passe. Et la dame me dit, écoutez, nous on travaille avec Necker, peut-être pas trop d'intérêt de venir. Je dis, écoutez, voilà, j'aimerais bien avoir l'avis d'un deuxième spécialiste, parce que pour moi...
C'est quoi cette fondation ?
C'est une genre de clinique, fondation qui s'appelle Rothschild. Et en fait, pareil, ils s'occupent des cas, des yeux, enfin tout ça. D'accord. Parce qu'en fait, le 15-20, ils m'ont expliqué que Carmela était beaucoup trop petite pour venir chez eux. Hein. Et puis vu que j'étais suivie à Necker, voilà. Donc du coup, on arrive à cette fameuse fondation Rothschild. On avait rendez-vous à 13h, on est passé à 19h. Donc c'était une journée très compliquée. Très très dur au niveau de l'attente. Donc, on était mon mari, moi et ma belle-mère. Et en fait, quand elle nous a pris à 19h, en bout de 4 minutes, elle a regardé les yeux de Carmela et nous dit : votre fille a un problème. Oui, bah, oui, Carmela, je sais qu'elle a un problème, mais là, ça. Voilà. Et donc, elle nous dit : bon, bah, asseyez-vous. Donc, on s'assit. Je pouvais pas imaginer que ce jour-là, mon cœur allait tomber par terre. Et de là, elle nous dit : écoutez, je pense que votre fille n'a aucune acuité visuelle. Donc sur le coup, je dis, c'est-à-dire, enfin, voilà, elle voit pas bien, qu'est-ce qui se passe ? Non, je pense qu'elle est aveugle. Donc de là, comme je te dis, le cœur est tombé par terre. On n'avait pas de mots à part pleurer. On a pleuré très très fort tous les trois. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire ? Elle nous a dit, écoutez, vous reprenez rendez-vous à Necker et puis vous revoyez avec eux. Et donc du coup, on est retourné à Necker. On a fait un scandale, mais totalement. Mmh. On a dit, maintenant, va falloir nous expliquer ce qui se passe, parce que là, vraiment, on va commencer vraiment à se fâcher. Donc, Carmela, elle est bientôt avoir un an, quand même. Hein. Donc, voilà, c'était difficile. Et de là, ils nous ont dit, écoutez, voilà, on pense que votre fille est non-voyante. Ah, d'accord, ok. Donc, oui, ben, à un moment, il faut nous le dire, hein, ça fait un an. D'accord, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, d'accord, mais comment ça se passe? Comment ça se passe? Nous, on habite à 180 km de Paris. Bon, ben voilà, ils nous ont donné une documentation, un bouquin. Bonne journée, au revoir. Ok, on fait quoi? Donc, de là, ben moi, j'ai un petit peu commencé à appeler ceci, cela en fonction de la documentation. Sauf que nous, à OCR, il n'y a strictement rien, mais rien de chez rien. Comment on fait, comment ça se passe. Et en fait, j'ai réussi à trouver les coordonnées d'un CIDVA. Donc en fait, c'est un centre pour personnes déficientes visuelles, mais qui se trouve dans le 91, où on habitait avant. Donc après plusieurs rendez-vous téléphoniques, on a eu rendez-vous. Et en fait, parce que ma grand-mère vit encore dans le 91, on a pu intégrer donc, ce CIDVA avec Carmela. Donc de ce fait, ils ont des psychomotes, ils ont des instructeurs en cas dans locomotion, psychologues, éducateurs de jeunes enfants, voilà. Donc ils ont voulu nous prendre, mais comment je vais faire? Parce que je travaillais.
Et... Tu étais pâtissière à l'époque?
Oui, à la base, donc avec ma sœur, on avait monté notre boutique et moi je faisais des cupcakes. Donc c'est un, voilà, hein, c'est quelque chose, on avait mis beaucoup de temps à créer notre boutique, beaucoup de sacrifices et tout devait s'arrêter en fait, quoi. Donc moi, j'avais pas envie de laisser ma sœur. Enfin, c'était un tout. Puis moi, j'aimais mon travail. Et du coup, j'ai pris la décision, il y a 2 ans, d'arrêter de travailler pour pouvoir m'occuper pleinement de Carmela. Enfin, de Carmela et de Lorenzo. Mais vraiment de Carmela. Et de là, à commencer les allées à Paris. Voilà, dans le 91, du coup.
Parce qu'il n'y a aucun autre centre plus
près. Non, du tout, du tout, du tout. Donc du coup, tous les lundis, je suis dans le 91 avec Carmela. Donc, bah, le suivi a commencé donc, il y a 2 ans. C'est tout le temps.
Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas?
Et bah, donc, elle est suivie par une psychomote. Donc, bah, petit à petit, les déplacements, tout ça. Elle a intégré également un groupe d'enfants malvoyants. Carmela est la seule non-voyante. Mmh. Où elle fait de la cuisine, des déplacements. Enfin, c'est tout le temps des activités. Bon, y a une psychologue, si on a besoin de parler avec elle. Y a un instructeur en canne, donc, en fait, qui apprend à Carmela à se servir de ça. Pré-canne, c'est une canne avant la canne blanche, voilà. Et il y a tout un suivi en fait pour Carmela, jusqu'à au moins ses 20 ans.
Tu as arrêté de travailler, est-ce que l'État il t'aide financièrement dans ces cas-là?
Alors oui et non, moi déjà j'étais à mon compte, donc c'est très compliqué, comme je t'expliquais. Non, ils nous donnent l'allocation d'enfants handicapés, donc j'ai fait de là un dossier MDPH. C'était très compliqué, je ne savais absolument pas ce que ça représentait, ce que ça voulait dire. Enfin, pour moi, c'était vraiment nouveau. Et de là, je me suis rendu compte à quel point, justement, les difficultés en France sont énormes. Et donc, j'ai fait un dossier MDPH. Donc, du coup, je touche une allocation pour ma fille, mais qui n'aide pas forcément dans le quotidien. Parce que, du coup, j'ai des déplacements dans le 91 tout le temps. Que je fais avec ma voiture. Non, bah bien sûr que non. Donc là, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une demande pour un VSL qui m'a été refusé.
Donc ça, c'est quoi, VSL?
Alors, en fait, c'est pour qu'un taxi puisse m'emmener à Paris. D'accord. Parce qu'à force, bah, c'est avec ma voiture. Hein, j'ai cassé plusieurs fois ma voiture. J'ai eu des petits soucis. Hein, donc, c'était très compliqué. Hein. Et elle m'a été refusée parce que Carmela n'a pas de protocole de soins. En fait, elle n'a pas de soins réguliers. Donc, voilà.
Du tout.
Donc là, je vais continuer à me battre, je vais refaire des demandes, mais à un moment, bah, c'est vrai qu'on est un petit peu fatigué de tout le temps se battre, même si on n'a pas le choix de se battre. Là, j'ai un peu perdu, c'était un peu difficile, mais là, ça y est, je vais remonter un peu, quoi. Mmh. Mais voilà.
C'est un combat chaque jour.
Tout un parcours du combattant, tous les jours.
Et donc Carmela, elle vient d'avoir 4 ans. Comment ça se passe pour sa scolarité? Elle va à la maternelle?
Alors, ça, c'était pareil. L'école, très compliquée. Donc, qu'est-ce que Carmela va faire? Elle va aller dans un centre, pas dans un centre? Enfin, comment on va faire? Donc, déjà, Carmela, à la base, jusqu'à ses 1 an, elle était en nourrice. On a décidé d'arrêter la nourrice. Et en fait, j'ai décidé de la mettre dans une crèche, dans une micro-crèche. Et de là, l'illumination. On est tombé sur 3 femmes formidables. Et elles se sont occupées de Carmela, mais vraiment, après 3 refus de crèche, parce que les crèches refusaient de me prendre ma fille.
C'est
compliqué, le handicap, la peur, tout ça. Donc moi, je perdais vraiment patience. Et en fait, c'est la seule crèche qui m'a dit, bah, écoutez, venez, on verra bien ce que ça donne. Et depuis, bah, ça fait 2 ans que Carmela est à la crèche, totalement épanouie, d'être avec les autres enfants. Ils se sont rendus compte à quel point, en fait, Carmela était totalement autonome, quotidiennement. Même si, voilà, elle demande une attention particulière, c'est vrai que Carmela, bah, je la reprends à la crèche, elle a le sourire jusqu'aux oreilles, quoi. Donc, c'était la crèche. Et en fait, donc, l'année dernière est arrivé le problème, comment on va faire pour l'école ? Elle va aller où? Comment ça va se passer? Donc tout le monde, ah bah elle va aller dans un centre, etc. Donc moi c'est hors de question avec mon mari, on ne laissera jamais notre fille dans un centre. Parce, okay. Parce que déjà elle est aveugle, mais elle va très bien. Mmh. Et moi, ma fille reste avec nous. Je ne vais pas la mettre dans un centre à 80 km ou quoi que ce soit. Donc de là, je me suis dit, comment on va faire? Donc elle va rentrer à l'école, mais il faut une institutrice ou un instituteur en braille. C'est très compliqué, il faut une AVS, tout ça. Donc pareil, encore un nouveau combat qui a commencé. Donc de là, je me suis renseignée un peu à droite à gauche, après qu'on m'ait fermé plusieurs portes. Il n'y a malheureusement pas d'enseignante ou d'enseignant en braille sur Auxerre, etc. Comment je vais faire? Donc de là, on nous avait même dit qu'il fallait même déménager sur Paris. Donc on s'était fait un petit peu à l'idée de déménager, même si c'était très difficile pour nous. Hein. Mon mari travaille, on a notre vie qui est là. Si on est parti du 80, c'était pas pour y retourner. Hein. Donc c'était, voilà, c'était encore des gros coups durs. Et jusqu'à un jour où j'ai continué à me battre, à chercher. Et l'année dernière, j'ai une dame qui m'appelle et qui me dit « Bonjour madame ». Donc voilà, elle m'explique qui elle est. Je dis « Bon d'accord ». Elle me dit « Du coup, je suis enseignante spécialisée en braille ». Donc là, la délivrance totale. J'ai fondu en larmes au téléphone. Elle m'a dit « Mais je vais m'occuper de Carmela. Ça y est, je suis là, vous m'avez trouvée ». Et là, on s'est dit « Mais waouh, c'est génial, c'est formidable ». Donc du coup, on savait déjà. Mais par contre, il fallait l'AVS. Et l'AVS, c'est une aide en fait quotidienne à l'école qui aide les enfants soit handicapés, soit avec des troubles, soit des enfants tout simplement qui ont besoin d'une assistante. Mmh. Et donc de là, bah, comment on va faire? Faut trouver une AVS, faut ceci, cela. Donc pareil, j'ai fait les démarches. Donc pareil, encore une autre bataille qui commençait. Et on a fini par trouver une AVS, mais pareil, bah, faut que ça se passe bien avec l'enfant, faut que tout ça. Et donc Carmela a rencontré son AVS au mois de juin l'année dernière. Ça s'est très très bien passé, le feeling est tout de suite arrivé, parce qu'il y avait beaucoup de mamans qui m'avaient dit, voilà, c'est compliqué, il faut vraiment que tu tombes sur une bonne AVS, et moi, Carmela, donc, je lui ai imposé des choses et des règles, et elle fait sa vie totalement, et je voulais pas quelqu'un, voilà, qui soit tout le temps derrière elle, la mettre dans un cocon, parce que Carmela n'est absolument pas dans un cocon, hein. Et voilà, qu'elle soit comme avec un autre enfant, même si, bon, et donc, du coup, septembre est arrivé, donc Carmela a fait sa rentrée, donc pareil, pour la maîtresse, c'était compliqué, hein. Beaucoup d'appréhension, beaucoup de, voilà, de peur, etc.
Donc là, ça veut dire que dans la classe, il y a la maîtresse, l'AVS et l'enseignante.
Alors voilà, en fait, Carmela, donc, elle a sa maîtresse, plus les ATSEM avec. Ensuite, il y a son AVS qu'elle a tout le temps avec elle. Et l'enseignante spécialisée vient 2 fois par semaine, 2 matinées par semaine, s'occuper de Carmela. Parce qu'il faut savoir qu'elle a plus de 70 enfants dans Lyon, qu'elle gère seule. Ouais. Voilà, donc il ne faut pas que, voilà, qu'elle tombe malade ou il y a quoi que ce soit. Et du coup, la rentrée est arrivée. Le jour de la rentrée, bah, la maîtresse avait tout barricadé pour Carmela. Elle avait mis du matelas partout. Ils avaient fait tout de leur propre initiative. Impressionnant. Et du coup, bah, du coup, c'est le bonheur. Voilà.
Elle se sent bien, oh là. Avec les élèves.
Alors, tout va bien. Carmela prend même un bus. Parce qu'en fait, il y a un bus, nous, on est dans un tout petit village, et l'école est à 5 km, donc il y avait un bus. Donc pareil, tout le monde m'a dit, oh là là, tu vas pas la mettre dans le bus, la pauvre, machin. J'ai dit, bah non. J'ai dit, bah tu sais quoi, on va demander. Parce que la maîtresse m'a dit, oh, ça va être difficile avec Carmela. J'ai dit, bah Carmela, tu veux faire quoi? Tu veux aller au bus avec les copains ou tu veux que maman, elle t'emmène? Ah bah, je vais aller au bus. Du coup, je l'inscris au bus. Donc Carmela, tous les matins, prend un bus. Donc à l'intérieur, il y a le chauffeur et une ATSEM qui s'occupe des enfants. Et Carmela, encore une fois, sourire jusqu'aux oreilles. C'est la première à monter dans le bus, elle est trop contente, elle adore le chauffeur, enfin voilà. Du coup, elle prend le bus comme tout le monde.
Oui, tu prends pas de décision pour elle, en fait, tu échanges beaucoup.
À nous, de toute façon, c'est 90% de communication avec Carmela, parce que moi, c'est vrai que je suis pas dans l'optique de me dire, voilà, bon, ma fille est handicapée, absolument pas. Carmela, c'est comme Lorenzo, c'est un enfant. C'est un enfant qui fait des caprices, c'est un enfant, voilà, c'est une petite fille de 4 ans, qui a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Donc, Carmela, quand elle fait une bêtise, bah voilà, faut la punir. Ou quand Carmela fait... Enfin, voilà, je fais comme avec Lorenzo. Je fais pas aucune différence. Et ça, je pense que c'est très important. Très, très important.
Tu as donc un emploi du temps quasi militaire. Hein.
Un petit peu, ouais. Un petit peu.
Mais c'est important pour Carmela, j'imagine qu'elle ait des repères.
Voilà, en fait, c'est comme j'expliquais, c'est vrai qu'avec Carmela... J'ai instauré des horaires, des choses très importantes. Par exemple, c'est vrai que voilà, elle prend son goûter à heure fixe. Ensuite, elle va au bain à heure fixe tout le temps. On mange à heure fixe parce que c'est difficile pour elle déjà de pas confondre le jour et la nuit. Plus elle grandit, plus elle pose beaucoup de questions. En ce moment, c'est beaucoup, on est le matin, on est l'heure de manger, est-ce que c'est le goûter, est-ce qu'il fait nuit dehors. Donc, si à un moment, je la décale, c'est très compliqué, car Mella dort extrêmement bien la nuit, parce qu'elle est... Enfin, vraiment, les horaires sont... Donc oui, c'est vrai que je suis très à cheval sur l'emploi du temps. Je me mets une pression d'enfer pour que tout soit parfait à chaque fois. Après, non, pas forcément tout n'est parfait, mais on va dire que j'essaye de lui instaurer des repères. Pas qu'elle soit perdue pour plus tard pour elle dans sa vie quotidienne. Voilà.
Et tu me disais que ton emploi du temps à toi aussi, du coup, était pas mal modifié.
Ouais, parce que du coup, donc le lundi, on est à Paris, généralement tous les lundis. Hein. Ça arrive que des fois, je peux pas forcément y aller, donc j'y vais pas. Sinon, tous les lundis, on est dans le 91. Donc Carmela va à l'école le mardi matin, le jeudi matin et le vendredi matin uniquement pour l'instant. Donc du coup, elle va à l'école à 8h45 et je vais la chercher à midi. Hein. Donc c'est très très short. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps, je la récupère à midi et tous les après-midi, faut l'occuper. Elle a 4 ans, elle veut plus forcément faire de sieste, donc voilà. Donc c'est tout le temps beaucoup d'occupation, toujours trouver des idées avec Carmela, hein, parce que Carmela, elle peut pas regarder la télé, elle peut pas faire des choses que d'autres enfants pourraient faire. Donc faut toujours réfléchir à des choses en fait, tout le temps.
Comment tu fais du coup pour savoir ce qu'il faut faire?
J'improvise.
Ouais.
Je sais pas. C'est pareil, je me suis dit, mais comment je vais faire? Comment on va faire? Au feeling. En fait, c'est totalement au feeling, c'est tout le temps. Je prévois jamais rien, en fait. C'est très compliqué. Des fois, on va faire un atelier pâtisserie, une autre, ça va être des autocollants ou des gommettes, ou je vais les emmener dans tel endroit. En fait, je fais vraiment comme avec Lorenzo, je me prends pas la tête, on écoute de la musique, on va écouter des histoires. On va bouquiner, on va faire des petites séances de massage, des petites séances de ceci, cela. J'essaye toujours d'improviser. Et encore une fois, je ne suis pas parfaite. J'essaye de faire au maximum comme je peux. Et je le fais avec mon cœur de maman et je ne réfléchis pas, en fait.
Pour savoir comment faire aussi, les premières fois, aller sur le pot, savoir comment laver les mains, des choses qui peuvent paraître...
Ah oui, mais non, mais totalement. Ça, c'est des choses que j'appréhendais énormément. Comment Carmela va aux toilettes? Comment je vais faire? En fait, j'ai fait comme avec Lorenzo. Je l'ai mis sur un pot. Je l'ai laissé avec un bouquin musical, bien sûr. Je faisais pipi à côté d'elle. C'est bête, mais le bruit, etc. Donc, Carmela est totalement propre. Ça y est. Donc, je lui mets encore quelques couches la nuit parce que des fois, c'est compliqué pour elle. Pareil au niveau de la marche. Comment faire? Ça, c'est pareil. C'était tout un truc. Comment on a fait? On a fait comme avec Lorenzo. Donc, c'est pareil. Elle a mis plus de temps à marcher, mais ça, c'est fait. Mais c'est vrai que j'ai tellement de peur et d'appréhension, mais en fait, au moment venu, on y va au feeling. Et ça se passe relativement bien. Pour manger, c'est pareil. Donc, Carmela mange seule, à la main. Elle a du mal encore avec une fourchette. Le yaourt, je l'aide tout le temps. Mais elle boit seule. Tout est bien positionné sur la table pour qu'elle puisse gérer seule. Voilà. C'est toute une organisation tout le temps. Hein. C'est tout le temps...
Le yaourt, faut qu'il soit d'un côté.
Voilà. Le verre, pareil. Elle va te demander chaque objet ce que c'est. Si c'est l'assiette du pingouin, si c'est l'assiette de ceci, si c'est le verre rose des princesses, si c'est le verre rose de ça. C'est tout le temps. Carmela pose énormément de questions toute la journée. C'est pour ça qu'il faut tout le temps être derrière elle. C'est très fatigant. Très, très, très fatigant même. Mais voilà. Elle a besoin qu'on soit à 80% tout le temps derrière elle.
Est-ce qu'elle se rend compte qu'il lui manque un sens?
Alors, elle sait qu'elle a un problème aux yeux, mais... Donc là, elle grandit. Elle me pose de plus en plus de questions. Pourquoi j'ai une canne? Pourquoi les autres n'ont pas? Pourquoi moi, j'ai les yeux que je vois pas? Pourquoi ceci? Est-ce que Lorenzo, il a une canne? Pourquoi Lorenzo n'a pas de canne? Pourquoi j'ai bobo les yeux? En fait, elle pose énormément de questions. C'est pas toujours facile. Des fois, on a des gros coups de blues, d'ailleurs, avec ça. Ou des fois, on va dire, regarde! Mais oui. Alors, on se rend pas compte que voilà... Mais le mot regarde fait partie du vocabulaire, donc des fois on dit pourquoi je lui dis regarde? Si, parce que ça fait partie, faut lui dire justement. Mais c'est vrai que des fois on sait pas trop quoi répondre. Elle commence à se rendre compte qu'elle a quelque chose, mais elle a que 4 ans. Elle a que 4 ans.
Oui, c'est l'âge des pourquoi.
Voilà, ou par contre, la dernière fois par exemple, tu vois, elle m'a dit maman, là je me sers pas de mon couteau et mon amoureux il m'aidera plus tard. avec le couteau. Bah, je lui dis, bah non, Carmela, tu débrouilleras toute seule. Ah bah oui. Puis Lorenzo, moi, je sais, je vais jamais conduire. Lorenzo, il m'emmènera dans sa voiture. Elle a 4 ans, mais en fait, elle pose des questions d'un enfant de 10 ans. Mmh. Elle est très avancée, en fait. D'ailleurs, c'est ce qui m'explique aussi Deva. Carmela, elle est... je dis pas ça parce que c'est mon enfant, parce qu'on me le répète tout le temps, mais j'ai du mal à me le dire. Elle est très, très avancée. Elle pose énormément de questions qu'un enfant de 4 ans, à la base, te poserait pas, en fait. Mmh. Voilà. Donc, des fois, c'est difficile de... Je voudrais un bébé dans le ventre. Genre, un bébé dans le ventre avec mon amoureux. Mais tout le temps, des choses... tu vois, elle va, je me dis, mais comment elle sait ça? Ou voilà, des choses... j'aurai un chien plus tard qui va m'aider. Bah oui. Mmh. Tu vois, c'est... faut tout le temps répondre aux questions, en fait. Voilà.
Et il y a des professionnels qui t'aident à répondre à ces questions?
Bah, de temps en temps aussi, Deva, quand je me pose des questions, mais non. Bah, grâce à Instagram, c'est bête, mais... J'ai de l'aide parce que des fois je me posais des questions que bah, certaines elles ont des réponses ou des choses comme ça. Mais non, c'est le feeling quotidiennement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais.
Et t'as rencontré d'autres parents qui vivent la même chose?
Oui, j'en ai quelques-unes avec qui je suis très proche. Ça se passe très bien. D'autres moins proches parce que bah, Instagram, voilà. Je suis tombée sur des mamans pas très sympathiques avec moi parce que leurs enfants avaient ça. Malheureusement, ils ont des situations où, par exemple, leur conjoint est parti. Moi, j'ai de la chance que mon mari... Enfin, j'ai de la chance. Voilà, Samuel est là, il s'occupe de sa petite fille. Il y en avait beaucoup de jalousie. Pourquoi toi? Pourquoi pas nous? Pourquoi machin? Donc, encore une fois, c'est des gens à qui j'ai répondu, bah, je pense que vous devez être très malheureux. Et puis, si un jour vous changerez d'avis, vous reviendrez me voir. Ça me dépasse un peu ce genre de situation, d'ailleurs. Moi, si j'ai décidé de parler, comme je te disais, du handicap de ma fille... En aucun cas, c'est pour faire pleurer dans les chaumières. C'était parce que ça fait des années que j'étais sur Instagram. Les gens ont vécu le milieu hospitalier avec nous. Donc, j'ai décidé d'en parler. Et c'est pas parce que j'ai un enfant handicapé que la vie n'est pas belle. Parce que la vie est belle. Il faut avancer, il faut pas pleurer. Il faut se battre. Et c'est plus ça, en fait, que je veux montrer sur mon compte Instagram. Je parle pas que de ma fille. Donc, voilà, ça m'arrive de dire que des fois, ça va pas. Mais c'est vrai que non, je montre que 10% de ma vie. Hein. Mais voilà, j'essaie toujours de dire que tout va bien.
Et Carmela, elle a une relation assez fusionnelle avec son frère.
Très fusionnelle.
Très fusionnelle.
Très, très fusionnelle. Ouais, c'est... Bah, Lorenzo, quand j'ai appris que j'étais enceinte, il m'a dit « Maman, j'attendais que ça. » Et quand Carmela est née, il a dit « C'est le plus beau jour de ma vie. » Lorenzo, il est passé de 6 ans à... Il est... Alors, ils s'engueulent, hein, comme des frères et sœurs, ils se chamaillent, etc. Mais Lorenzo, il y a même quand il y a des copains chez nous, il s'occupe de sa sœur. Lorenzo, il emmène sa sœur aux toilettes. Lorenzo, il l'aide, il la porte sur son dos, il est très... Alors attention, il y en a beaucoup qui me disent « Oui, tu montres moins ton fils, etc. » Alors mon fils, il a 10 ans, il est grand. Les photos, ça ne l'intéresse plus, il fait sa vie, il rentre dans l'adolescence. Donc je ne force en aucun cas. Mais Lorenzo ne s'oublie pas quand même. Tous les mercredis matins, Carmela va à la crèche. Moi, je passe du temps avec mon fils tous les mercredis matins. Il va à la boxe avec son père. J'en oublie absolument pas mon fils. C'est sûr que des fois, on est plus présent pour Carmela. Mais en aucun cas, Lorenzo a très bien compris la situation. D'ailleurs, quand tu lui poses la question, est-ce que t'es malheureux pour ta sœur? Absolument pas. Ma sœur est aveugle, mais voilà. Bon, bah voilà. Il dit tout le temps, je m'en fous. Mmh. Voilà, c'est le mot de Lorenzo, je m'en fous. Bah lui, mais c'est vrai que Carmela, en fait, est tellement extraordinaire qu'on oublie qu'elle voit pas des fois. Mmh. C'est bête, hein, mais c'est vrai. C'est, voilà. Mais non, avec Lorenzo, c'est un petit garçon comme les autres, quoi. Un peu plus proche de sa sœur, mais voilà.
Il pose des questions, il vous a posé des questions par
Alors, au début, cas. Mais c'est vrai que non. Et en fait, pareil, il faut au feeling. Il lui fait écouter du Skyrock, que ça soit du Booba, Niska, machin. Mais à côté de ça, elle peut écouter autre chose. Il lui apprend à jouer à la console. Il lui a appris des choses que même nous... Je dis, mais comment elle sait ça? Bah, c'est Lolo qui m'a appris. En fait, Lorenzo, il fait tout avec sa sœur. Sa sœur, il a fait de la trottinette avec, enfin des trucs, mais invraisemblables. Du skate avec sa sœur. Ouais. Tu te dis, mais c'est... Elle connaît tous les copains de Lorenzo. Enfin, c'est. Par contre, il supporte pas qu'on dise du mal de sa sœur. Ça, c'est le.
Très protecteur.
Très protecteur. Il y avait eu un gros problème à l'école parce que dès le départ, les enfants savaient pas ce qui se passait. Et tout le temps, on lui disait ta sœur est moche, ta sœur est louche. Donc un jour, il a vraiment pété un plomb. Donc j'ai demandé au maître de faire une journée de sensibilisation au handicap. Ça s'est très bien passé. Et depuis, bah, les enfants adorent Carmela. Dès qu'elle vient à l'école, oh bah Carmela, Carmela, tout le monde veut s'occuper d'elle. Et...
C'était en quelle classe,
ça hein? C'était il y a 2 ans.
Donc il était en
CE2. Et il a très mal vécu. Hein. Mais non, il supporte pas qu'on dise du mal de sa sœur. C'est pour ça. Il... Non, c'est très. C'est... Voilà.
Et la journée de sensibilisation, du coup, vous avez fait quoi ?
Eh ben, c'est Lorenzo. Il a raconté l'histoire de sa sœur. Il a dit que sa sœur était aveugle, mais que c'est pas pour ça que... Justement, beaucoup d'enfants posent des questions. Bah, comment tu fais ça avec ta sœur ? Comme ça, ou voilà. Non, non, il est très ouvert à tout ça. Et au contraire, il supporte pas qu'on dise du mal de sa sœur.
Et alors, les enfants ont souvent peur du noir. Est-ce que Carmela s'en rend compte, elle, que...
Écoute, l'autre jour, elle m'a dit qu'elle voyait du jaune. Donc, je lui dis, ah bon ? Parce que je lui dis, mais tu vois, vu qu'elle grandit, je lui pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu vois, toi ? Ah, des fois, elle me dit du noir, des fois, elle me dit du jaune. Tu sais, je pense qu'elle est encore trop petite pour expliquer.
Elle n'a pas de frayeur particulière.
Alors, si. Ah, si. Carmela, c'est les bruits. Elle a très peur du bruit. Alors, en ce moment, elle dort avec son frère. Alors, c'est quelque chose que, pour moi, je les laisse totalement, parce que moi, je dormais avec ma sœur quand j'étais petite. Carmela, depuis l'hiver dernier, entre les bruits de pluie, le vent, le radiateur qui fait du bruit, tout ça, elle a eu une panique totale. Elle, c'est vraiment le bruit. Tout ce qui est camion, tracteur, moto, enfin, tout va... Un simple petit bruit que nous, on ne va pas entendre, elle va l'entendre à 10 mètres. Du coup, si, c'est les bruits. Carmela, c'est sa frayeur, c'est les bruits. Ah non, c'est très difficile d'ailleurs au quotidien. Un batteur électrique, elle va être terrorisée. C'est très compliqué.
Oui, c'est son sens qui se
développe. Oh là là, oui. Ah oui, oui, c'est... Donc là, elle veut plus dormir dans sa chambre depuis quelques temps parce qu'elle est terrorisée. Elle veut être près de son frère, donc je la laisse. Et là, justement, on va lui acheter un nouveau lit. On va refaire un petit peu sa chambre pour essayer de lui redonner confiance. Mais ouais, cet hiver, ça a été un peu compliqué, du coup. Ouais. C'est pour ça que même dans la rue, du coup, elle a du mal à marcher seule parce qu'un bruit va arriver, que toi, tu ne l'entends même pas. Tout de suite, elle va donc se crisper, mettre ses deux mains sur ses oreilles. « Maman, j'ai très peur, maman, j'ai très peur. » Et là, c'est un blocage total. Mais totalement. Elle n'avance plus, elle ne bouge plus. Elle se fige et elle a peur.
Souvent, Lorenzo l'a portée sur son dos.
T'as tout compris. C'est pour ça. Puis moi, des fois, j'arrive plus à la porter, j'en peux plus. Puis là, le fait qu'on n'avait plus de voiture, c'était tout un parcours du combattant. Très compliqué d'aller à pied, de faire comprendre à une petite fille de 4 ans que tu n'as plus de voiture, donc il faut aller à l'école à pied. Impossible. Tous les jours. Tous les jours, c'était une crise. Et puis t'as un mec qui passait à fond en camion, c'était terminé. Elle allait commencer un petit peu à marcher, et d'un coup, c'était un blocage total. Alors il y en a qui m'ont dit « Oui, mais t'as qu'à lui mettre un casque. » Déjà qu'elle voit pas, si je lui mets un casque, ça va être encore plus compliqué. Donc non, pas de casque, mais voilà, faut lui expliquer. Les trottoirs, ils vont être mal foutus, donc hop, elle va se figer. J'arrive pas à descendre. Tu sais, c'est des petits trucs bêtes que t'as pas forcément, mais que nous, ça va nous prendre une heure à lui expliquer. Voilà, c'est le problème.
Et elle arrive à mettre des mots là-dessus ?
Ah oui, oui, elle nous explique directement qu'elle a peur, ou la machine à laver, le sèche-linge, tout est... En fait, c'est tout un truc où, à la base, que t'expliques à un enfant une seconde ou 10 secondes, elle, ça va être des heures, voire des jours, voire des mois d'explications pour quelque chose que, voilà, c'est tout un truc, bah, c'est différent, quoi, voilà.
De la patience.
Oh, énormément de patience. Alors que moi, à la base, je ne suis quelqu'un de pas du tout patiente. Mais avec ma fille, j'ai appris à l'être.
Qu'est-ce qui est plus dur pour elle dans le quotidien ?
Voilà, elle va se cogner, même si elle connaît la maison. Elle va tomber. Les bruits, comme je te disais. Il y a des choses qu'elle n'arrive pas à faire toute seule. Elle va vite s'agacer. Maman, maman, viens m'aider, viens, viens. Elle arrive seule à se déshabiller. Elle enlève seule ses chaussures, ses chaussettes. Là, vraiment, il n'y a pas, je ne peux pas dire tout de suite, mais plein de petites choses que nous sont tellement bénins pour nous vont être difficiles pour elle. C'est des choses bêtes, mais voilà. Ça va être compliqué, elle ne va pas arriver à remettre quelque chose dans un jouet, donc elle va s'énerver, elle va s'agacer. Maman, viens m'aider, ou Lorenzo, ou papa. Et c'est des, voilà, c'est tout un truc. Donc ça va dépendre vraiment de la situation, en fait, à laquelle elle est amenée à être, et de là ou pas, si elle va y arriver ou pas.
Et est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas ou plus faire, où tout est possible ?
Alors, j'ai envie de te dire que tout est possible, mais de toute façon, ta vie change totalement. Il faut dire ce qui est, nous, notre vie est totalement changée. Que ça soit ta vie, ton caractère, ta force, tout est changé. Tout est décuplé, ou voilà. Nous, dans notre tête, on a totalement changé. Comme je te disais, on est devenu très, très dur. Moi, c'est vrai que à la base, le handicap, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai un cousin qui est trisomique, donc je voyais un petit peu comment ça se passe, mais je n'avais absolument pas idée de tout ce qui allait se passer. Les barrières, les gens, le comportement des gens, la société en elle-même en France, enfin, tu vois, tout le regard, enfin, tout ça. Et c'est vrai que là, on en a pris un gros coup dans la tête, dans le cœur, dans tout. Et alors, j'ai envie de te dire, non, rien n'est impossible, mais... Il y a plein de choses impossibles, en fait. Mais voilà. Moi, j'emmène partout Carmela. J'essaie de faire tout avec elle. Mais oui, c'est, tout est compliqué de toute façon. Oui, j'ai quelques barrières, quelques retenues. Je m'empêche pas, mais là, comme je t'ai dit, on va prendre l'avion avec Carmela. J'appréhende énormément. Le bruit de l'avion, comment elle va... Je sais pas. J'ai peur de ce qui va se passer, mais qui ne tente rien à rien. Donc, je la prépare depuis un moment. Mais non, je me dis, c'est pas parce qu'elle est aveugle qu'on va... Elle adore les manèges, elle adore la sensation. Il y a plein de choses, je te dis qu'elle adore, que voilà, elle fait du quad. Elle a fait du quad, Carmela. On a dû lui expliquer, mais elle adore la sensation du vent, de tout. Mais non, rien n'est impossible. Tout est possible, avec du temps et de la patience et de l'amour.
Et qu'est-ce qui est le plus dur à vivre pour toi au quotidien ?
Le regard des gens. Vraiment. C'est pas... En fait, c'est ce putain de regard, excuse-moi de dire ça, mais c'est les gens. Leur comportement, leur méchanceté. Alors, il y a des gens, comme je dis, il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui sont maladroits. Et ça, c'est des gens auxquels je n'en veux strictement pas. Je préfère qu'on me pose des questions, qu'on m'interroge. Voilà, ça me dérange, mais absolument pas. Je suis extrêmement fière de ma fille. Mais les gens méchants... ou qui vont s'attarder sur une enfant de 4 ans, à regarder ses yeux, à dire « c'est quoi ce truc ?»« C'est quoi ce truc ?» On m'a déjà dit quand même. « Oh là là, oh la pauvre gamine !»« Comment elle va, Carmela ?»« Ben, Carmela, elle va bien, elle va pas mourir demain. » Voilà, c'est en fait les gens... Voilà, il y a vraiment 3 sortes de gens, je te dis. Les gens qui savent pas, les maladroits et les méchants. Et moi, ce genre de personne méchante, c'est impossible de discuter avec des gens comme ça. Alors avant, je le prenais mal, mais maintenant, au contraire... Oui, ma fille, elle aveugle. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez sa photo ou... Tu vois, c'est vrai que j'ai tendance à plus m'énerver, mais aller au front. Mon mari, il a beaucoup de mal, par contre. Lui, c'est très compliqué. Il ne supporte pas quand les gens vont dévisager Carmela. C'est un manque de respect. C'est vrai que c'est un manque de respect totalement. Et je me rends compte de plus en plus quand elle est avec sa pré-canne. Donc, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Je peux tout à fait le comprendre. Mais les gens que t'entends à tout, tu vois, chuchoter... ouais, nanana, la gamine. Moi, je ne supporte pas. Vraiment, ça me fait beaucoup de mal. Mais énormément de mal. Alors que Carmela, elle aime tout le monde. Elle adore les gens. Tu lui parles, elle va te sauter dans les bras. C'est une petite fille, je te dis, qui aime tout le monde. Que ce soit les gens, les animaux. Elle fait même des câlins aux arbres, hein, pour te dire.
Mais c'est important.
C'est très important, il paraît. Donc, c'est quelqu'un de tellement rempli d'amour que je ne supporte pas les gens qui se permettent de regarder ma fille, tu vois. Voilà. Ça me fait énormément de mal. Ou les gens qui se permettent de nous juger, qui ne nous connaissent pas. « Oh, c'est bon, ta fille, elle va pas mourir. C'est bon, elle est juste aveugle. Mesure tes paroles. » Le jour où ça t'arrive, tu tombes de très bas. Et je ne le souhaite à personne, d'ailleurs. Même à mes pires ennemis. Je ne souhaite à personne de vivre cette situation. Moi, comme je dis, je suis pas à plaindre. Parce qu'il y a des personnes qui vivent des choses encore plus dures que nous. Qui perdent des enfants, qui ont des maladies, des handicaps beaucoup plus lourds. Mais chaque situation est différente. Tu ne peux même pas te permettre de juger. Parce que ton enfant, même quand il va tomber en vélo, qu'il va se blesser, tu souffres pour lui, t'es malheureuse pour lui. Donc, tu peux... Enfin, moi, pour moi, je ne me permets pas de juger, en fait, les gens. En aucun cas. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec le jugement des gens. Voilà. Sur parce que tu vas faire ceci ou cela, les gens vont tout de suite te cataloguer ou te juger. Sauf que la plupart des gens auraient ça à vivre et se diraient « Waouh, comment j'ai pu me permettre, en fait, de... » dire quelque chose à ces gens-là, c'est pas possible en fait. Voilà, et ça, j'ai beaucoup de mal en fait aussi.
Est-ce que t'as des peurs pour Carmela pour plus tard ?
Si tu savais, j'ai tellement de peur. Quand j'en parle aux gens, ils me disent ah, c'est bon, t'as le temps. Non, j'ai pas le temps. J'ai peur quand elle aura un copain. Tu sais, on sait pas ce qui peut se passer. J'ai peur de viol. J'ai peur qu'il arrive du mal à ma fille. J'ai peur pour son quotidien. J'ai peur pour énormément de choses. Comment elle va vivre seule ? Alors à force, j'ai commencé à rencontrer des gens non-voyants donc qui m'ont vraiment fait du bien au moral. Ils m'ont dit « Mais t'inquiète pas, Julie, ça va rouler. » Bien sûr que ça va rouler, je le sais, mais j'ai beaucoup d'appréhension. J'ai beaucoup d'appréhension qu'elle sortira avec ses copines. Enfin, en fait, pour tout son avenir, tu vois. J'ai très, très peur. On sera pas tout le temps là, malheureusement, hein, parce que on va vieillir et voilà. Mais ouais, j'ai beaucoup d'appréhension, énormément. Très peur de plein de choses. Puis avec la vie actuelle, avec tout ce qui se passe, on a déjà peur. Mais avec le handicap, ça nous fait encore plus peur.
Et qu'est-ce qui a changé chez toi depuis que tu as vécu cette épreuve ?
Tout. J'ai changé, totalement. Avant, j'étais quelqu'un de très défaitiste. Ça m'arrivait de me plaindre, machin. Et là, maintenant, plus du tout. J'ai beaucoup de mal à pleurer. Je suis très, très dure. Très, très dure avec moi-même et très, très dure avec les gens. Mais avec mon mari, bon, déjà, mon mari est quelqu'un de très, très dur. Et on est devenus encore plus durs tous les deux. On n'est pas du genre à s'apitoyer sur notre sort. Alors, on va craquer. On craque souvent, tous les deux, d'ailleurs. Parce que mon meilleur, avant d'être l'homme de ma vie, c'était mon meilleur ami. Donc, on parle énormément. On est très fusionnels. Et heureusement, d'ailleurs, j'ai envie de te dire, parce que je pense que quand une situation comme ça t'arrive, c'est 50-50. C'est soit tu vas renforcer ton couple, soit ça ne va pas aller. Il y a des hauts et des bas, comme tous les couples, j'ai envie de te dire. Mais on a de la chance d'être très fusionnels pour tout ça. On avance et on se dit que, voilà, comme je te dis encore une fois, on n'est pas les seuls à vivre ça. Mais beaucoup de choses ont changé. Mon regard au niveau des gens, ma vie, mon quotidien. Beaucoup de choses ont changé. Je ne pourrais pas tout dire, mais voilà. Je ne m'apitoie pas sur mon sort et j'avance et... Je veux pas me plaindre, je veux pas me plaindre, tu vois. J'ai beaucoup de mal à dire ce que je pense. C'est pour ça que sur Instagram, encore une fois, les gens voient 10 à 15% de notre quotidien. Parce que le problème, c'est que t'as toujours peur de trop en dire ou de. Voilà. Tu vas te plaindre, on va te dire que tu plains trop. Tu vas pas te plaindre, on va te dire que t'as une vie de rêve. Mais en fait, les gens n'ont pas de juste mesure. Mmh. Heureusement, j'ai une communauté très engagée et la plupart savent à quel point. Voilà. Mais les gens ont tendance à vite juger en disant Oh, mais c'est cool. En fait, non, il n'y a rien qui est cool. Je te dis que ton enfant, de toute façon, soit handicapé ou pas, c'est difficile d'être maman. Personne n'est parfaite. On essaie juste d'être bien, de faire notre possible et notre maximum pour nos enfants. On fait des erreurs, voilà, comme tout le monde. Mais à un moment, c'est vrai qu'il faut arrêter de juger les gens et balayer devant sa porte avant de juger les gens, tu vois.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman auxerroise ?
Complication. Bah, les gens à Auxerre sont pas très ouverts, je trouve. C'est vrai que nous, quand on est arrivé ici, c'était une région qu'on ne connaissait pas, qu'on a appris à découvrir. Et les gens sont assez fermés ici. Après, j'ai eu de la chance de tomber sur des bonnes personnes, tout ça. Mais c'est un milieu très fermé ici. Il n'y a pas beaucoup de... Voilà, fermé. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais... Les gens ont du mal avec la nouveauté. Bah déjà, à propos du handicap, c'est très compliqué. Les peu de fois où j'ai été avec Carmela dans la rue piétonne d'Auxerre avec sa précane ont été catastrophiques. Mais totalement. Le regard des gens, c'était comme je t'en parlais, horrible, ignoble, mais vraiment atroce, en fait, à gerber, totalement. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Et c'est vrai que du coup, j'ai de plus en plus de mal à me promener sur Auxerre. Je reste dans ma campagne, du coup. Hein. Donc, du coup, voilà.
Est-ce que tu as un endroit kids-friendly préféré ?
Franchement, à Auxerre, non, pas vraiment. Avant, je te dirais ma boutique avec ma sœur, venir voir ma sœur. Mais non, à Auxerre, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose pour se poser. Bah, le McDo, j'ai envie de te dire. Des fois, on va déjeuner au McDo. Mais non, je n'ai pas d'endroit préféré à Auxerre pour le moment. Peut-être si un jour j'en rouvre, hein. Je ne sais pas.
Oui,
on verra.
C'est une bonne idée.
Ouais, voilà.
Quels sont tes projets pour toi et ceux prévus en famille ?
Mes projets pour moi, continuer mon compte Instagram, continuer mes collaborations, travailler mes photos, hein, parce que c'est un milieu qui me plaît, qui me permet de m'occuper de mes enfants tout en pouvant un petit peu gagner ma vie, je dis bien un petit peu. Hein. Puis c'est surtout, c'est quelque chose qui me plaît, moi là-bas j'adore faire des photos, je ne me suis pas mise sur Instagram pour être blogueuse, en aucun cas, mais j'ai eu de la chance d'avoir une belle communauté et que maintenant quelques portes s'ouvrent à moi. Pour mes enfants, j'aimerais pouvoir un petit peu voyager, les emmener un petit peu, faire découvrir différents univers, faire un autre projet avec mon mari, donc ça c'est pareil, et voilà, continuer notre petit bout de chemin dans la simplicité, que tout se passe bien pour mes enfants.
Merci beaucoup Julie.
Voilà, merci beaucoup.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Julie, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 15 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.